Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 131e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme tous les vendredis matins à 8h pour une petite sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Bonjour Fastil, à 8h du matin, un vendredi 8 mai bien sûr. J'espère qu'ils sont tous au rendez-vous, hein. Sinon nous on arrête le podcast. Hein.
Écoute, la dernière fois qu'on a fait ça pendant un jour de congé, ils étaient tous très contents, donc je pense que ça vaut la peine.
C'est pour ça, et nous aussi on est très contents, hein. D'accord. Je suis content là, ça se voit pas.
Allez, on va y aller tout de suite avec le gaming et aussi une raison d'être content, c'est les annonces de Microsoft.
C'est pour ça que je suis très content d'ailleurs. En fait, à la base, c'est que voilà, au moment où on enregistre, je viens de finir de m'infliger la conférence de complètement marketing de Microsoft qui va a priori nous gratifier tous les mois jusqu'à la sortie de cette machine. Ça va être long les gars. Tous les mois donc on va avoir une espèce de conférence vidéo qui va nous expliquer à quel point la série X est géniale. Ça va être super. Écoutez, c'était très long, très pénible. Ils ont annoncé 13 titres. Dans les 13 titres, je vous ai linké la news d'Ars Technica qui a fait deux lignes sur chaque titre parce qu'on était quand même dans la galaxie du OSEF, comme on dit chez nous. J'ai vraiment pas... Enfin, il n'y a pas un jeu où tu te dis « Mais évidemment, je vais acheter cette machine, cette console est pour moi. » Alors attention, c'est des jeux qui vont être dans la fenêtre de lancement de ces consoles, mais il y a plein de titres qui sont en fait annoncés pour la Xbox actuelle, mais qui, grâce à la nouvelle façon de vendre ces jeux de Monsieur Microsoft, ne seront pas forcément réachetés quand vous upgraderez sur la nouvelle machine, car vous allez upgrader la nouvelle machine. Hein. C'est Microsoft compte vraiment là-dessus. Les lâchez pas maintenant. Donc la conf, pourquoi c'était chiant? Parce qu'en fait, bah, c'était des trailers surtout, des jeux pas très intéressants, et du blabla, Covid-19 power, donc du blabla en webcam dégueulasse avec le frigo de Bob en fond. C'était pas génial. On a kiffé aussi un des mecs qui faisait la conf avec les technologies mixeurs. Donc pas vraiment de fond vert, mais un fond vert avec, tu sais, l'intelligence artificielle. Mmh. Ouais, qui donc coupe la moitié de la gueule du mec parce qu'en fait, elle détecte pas vraiment où s'arrête son visage. Je peux la comprendre, même l'intelligence artificielle, elle était saoulée en même temps, tu vois. Donc vraiment, c'était pas magique. La liste des jeux, bah, vous irez voir les trailers puisqu'il y avait que ça à voir sur la news d'Ars Technica qui est une de, voilà, j'ai pas regardé qui avait écrit quoi. On sort du truc, donc j'ai pas vraiment fait tout le tour du net, vous m'excuserez. Je voulais juste mettre un petit coup de sur Vampire the Masquerade Bloodline 2 parce que Paradox donc nous sort une suite à cet action RPG de 2004 que plein de gens voilà, tout le monde attend ce truc et tout. Mon dieu que c'était moche. C'était vraiment, tu sais, le jeu qu'on te montre en 2012 et tu te dis ouais, c'est pas mal. Mmh. Tu vois, donc en 2020, je vous laisse imaginer. Je suis assez triste, mais après, je sais que c'est pas un budget énorme qu'ils ont sur ce titre, mais bon, voilà, c'était un petit peu dommage et surtout, je vous dis, hein, dans le cadre d'une conf où tout le monde s'attend quelque part à un wow effect de Microsoft sur sa prochaine génération.
C'est mal parti.
C'est ça. Et puis bon, bah, je vous laisse vous régaler, parce qu'évidemment, c'était quand même une conf américaine. Donc, il y a eu une grosse partie sur Madden NFL. Autant vous dire que si vous avez du mal à vous endormir, c'est une partie que vous pouvez vous repasser en boucle. Vous allez vous régaler. Bon, j'arrête de dire du mal. Ouais. Allez regarder ça et on se retrouve. Si le mois prochain, ils nous font la même, je vous jure, je vous parle plus de cette console jusqu'à ce qu'elle sorte, parce que ça va pas être possible de me taper ça tous les mois.
Allez, on va parler de moto.
Oui, parce que c'est pareil. Ça se passe bien, le sport, en ce moment.
Ah, bah oui.
Alors, MotoGP 20. MotoGP, c'est la licence officielle, puisque ça s'appelle déjà MotoGP, tu vois. C'est la rente de Milestone, ce qui ne fait pas grand-chose d'autre, j'ai envie de dire. Non, je suis vache, mais c'est vraiment la rente, le jeu qui sort tous les ans, façon Electronic Arts. Et pendant très longtemps, c'était de la merde, mais vraiment du gros caca. Donc, quand on est fan de MotoGP comme moi, c'est un petit peu le truc que tu ne touches même pas avec un bâton. En 2019, révolution, le truc a été quasiment entièrement refait, et c'est devenu un peu moins nul. Bon, alors ça reste du pilotage de moto, donc de toute façon, si vous êtes pas fan, c'est un peu compliqué, c'est pas aussi simple à simuler qu'une bagnole, puisque une moto, bah certes, ça bouge, mais ce qui fait tout le travail, entre guillemets, c'est le pilote et la façon dont il est positionné sur la bécane, donc c'est assez difficile à rendre en jeu vidéo de manière un petit peu sympa. Bon, ils s'en sortent pas trop mal, là en plus cette année, s'ils en vendent pas, ils en vendront jamais, parce que en fait, je vous rappelle que la saison de MotoGP est censée démarrer le 5 mars, donc évidemment il n'y a pas eu une seule course encore, et on parle donc d'une communauté de mecs en plus qui sont habitués à voyager sans arrêt pour aller courir sur tous les circuits de la planète, hein, évidemment ça touche pas que le MotoGP, hein, mais là c'est moi, c'est mon sport mécanique de prédilection, donc j'ai vu le truc avec tristesse, et puis j'ai vu une interview des mecs, ça n'a rien à voir avec le jeu, je suis désolé, c'est aparté, mais une interview d'un mec qui gère une équipe qui s'appelle Hervé Poncharal, qui est très connu dans le milieu de la moto en France en tout cas, le mec qui expliquait que le confinement, quand t'es habitué à voyager et à vivre avec ta valise à la main, c'est assez particulier pour eux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe et pourquoi donc ce jeu est important? C'est parce que ils ont fait des opérations marketing où les vrais pilotes se battent entre eux, font des courses sur le jeu.
D'accord.
Donc ça a servi de grosse plateforme de lancement au jeu avec les Marc Marquez et Frangin qui s'affrontent avec tous les mecs du plateau.
Ils ont fait la même chose avec l'IndyCar, il me semble.
Ouais, exactement. L'IndyCar fait pareil. Tous les mecs ont un jeu dédié avec une licence officielle. Ils se sont dit bon, il est pas nul. S'il est pas pourri, on y va. Donc là, on a découvert quel pilote était un petit peu correct avec une manette à la main. Bref, pour revenir sur le jeu, la problématique, c'est que pendant très longtemps, les gens râlaient qu'il y avait pas de mode carrière. Donc ils ont rajouté un mode carrière et je vous confirme que je n'y toucherai jamais parce qu'en fait il est très bien le mode carrière, hein. C'est juste qu'il faut tout gérer, hein. Donc il faut engager un agent qui va lui se charger de vous trouver une écurie, mais il va falloir aussi avoir un mécanicien, enfin un chef mécanicien, bref il faut monter toute sa team, il faut gérer tout ce petit monde, il faut gérer la R&D, donc les mecs se plaignaient en fait il n'y avait pas assez de choses à faire hors circuit. Bon, écoutez, amusez-vous bien, les gars. Ça sera sans moi. C'est beaucoup trop pointu. Moi, je suis plutôt, d'ailleurs, triste qu'il n'y ait pas même un mode arcade, genre trois clics, on y va. Pour arriver sur un circuit et jouer, c'est pas immédiat. Donc, c'est un petit peu chiant quand t'es finalement, c'est demandeur d'un truc un peu sympa à piloter, mais pas non plus ultra complexe. En revanche, là où ils ont fait beaucoup de progrès aussi, c'est sur un truc. Alors, évidemment, il y a toute une partie marketing, genre réseau neuronal pour gérer l'intelligence artificielle des autres pilotes. Bon, on va se calmer, ils font pas n'importe quoi sur le circuit, c'est déjà pas mal. Et c'est encore mieux cette année. Donc, si vous êtes fan, je vais pas rentrer parce que je sais que je vais saouler tous les gens qui n'ont rien à foutre du MotoGP. si vous êtes fan, c'est le jeu à acheter. Bon, évidemment, c'est la licence officielle, il y a pas 50 milliards de choix, mais vous n'aurez pas l'impression de vous faire avoir. Pour info, j'ai testé le jeu sur PlayStation 4 Pro, ça tournait très bien. Le seul truc qui me fait beaucoup rire sur ce genre de titre, c'est la modélisation des visages des pilotes. Qui doivent bien rigoler en se voyant dans le jeu parce que putain qu'est-ce que c'est moche. Alors que les portraits en 2D sont très réussis, mais alors en revanche les mêmes stylisés et tout, c'est vraiment nul. Ah si, un mot, ils ont rajouté un mode historique qui moi me fait plaisir parce qu'on peut jouer avec d'anciennes légendes du circuit MotoGP même avant que ça s'appelle vraiment MotoGP comme ça. C'est pas glorieux et à mon avis ça fera partie des trucs qui pourront améliorer vu qu'ils ont la licence et donc les droits des noms etc. C'est un des trucs qui pourront améliorer dans les prochaines éditions. En tout cas, c'est dispo maintenant et comme on peut pas sortir et pas faire de bécane pour certains, ça pourra vous occuper un moment.
Et puis c'est la grosse sortie de la semaine, Street of Rage 4.
Tiling, qu'on devait sortir. En fait, c'est la grosse sortie de la semaine dernière même.
Oui, mais je peux pas le dire.
Sauf que bon, on est un peu à la bourre sur ce coup-là pour des raisons indépendantes de notre volonté. C'est une très bonne nouvelle. Alors déjà, je précise que j'ai linké dans la news qui accompagne ce podcast le test. Je sais que c'est payant, c'est pour les abonnés. Désolé, mais c'est un des plus complets. Donc le test de nos amis chez Gamekult qui ont fait le taf. Et d'ailleurs, donc je vais en profiter pour, alors je vais pas vous lire l'intro, mais il faut contextualiser Street of Rage 4 pour les gens qui débarquent. Donc c'est un vieux beat'em up et pas beat'em all comme certains Français disent à cause d'une traduction pourrie dans la presse de jeux vidéo de l'époque qui jusqu'à ce jour perdure. Donc il y a une série qui est sortie il y a genre 25 piges, donc un petit jeu d'avant-hier. Et c'est pas du tout Sega Japon hein, qui s'occupe l'étude de cette version. C'est comme d'habitude avec certains remakes qui font un peu parler d'eux. Ce sont les équipes parisiennes de Lizard Cube qui se sont tapés le boulot. C'est ceux qui étaient déjà derrière Wonder Boy, The Dragon's Trap, qui est fantastique. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous le prendre même sur iPad, etc. Enfin, il est génial sur toutes les plateformes, si vous aimez le genre, évidemment. Et qui travaille actuellement aussi sur Windjammers 2, dans lequel j'ai beaucoup d'espoir. Et la programmation a été faite par une boîte qui s'appelle Guard Crush Games. C'est des Montréalais qui avaient fait une parodie qui s'appelait Street of Fury, que je n'avais pas vu passer. Donc, ils savaient déjà de quoi ils parlaient, les petits gars. Et les musiques, il y a des compositeurs d'origine avec Yuzo Koshiro qui était là et Motoshiro Kawashima. Et derrière les invités japonais, on a un gars qui s'appelle Olivier de Rivière qui s'est tapé le gros du boulot, tu vois. Mais bon, son nom fait moins marketing, on va dire, entre guillemets, pour les vieux fans, qui a fait un super taf, en fait. Alors après, tu vois, la musique, je laisse ça à Gotoz et notre ami Pipo.
Ils en passent d'ailleurs dans le dernier épisode des Démons du Midi.
Je sais, c'est pour ça.
Extrait, voilà.
En tout cas, moi, j'ai trouvé ça, en fait, au pire, elle te choque pas. Et au mieux, t'es ultra, tu te dis merde, c'est bien ça, tu vois. Mm-hmm. Donc moi, j'en attends rarement plus pour la musique d'un beat'em all, donc je suis assez content. Tout va bien. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un jeu. Tu vois, j'ai dit beat'em all en plus, mort de rire. Je viens de dire beat'em all. Je viens de vous dire que ça se disait pas comme
si,
ça. Et
si
mon
tu
cerveau,
veux, je peux le couper au montage.
Non, garde-le, parce qu'il faut que les gens sachent.
que c'est
tu
dur.
Vois,
c'est une lutte de tous les instants.
La presse de jeux vidéo fait du mal à toute une génération. C'est une horreur. Le jeu a été fait par 5 personnes à plein temps, il faut le savoir. Alors, il y a des extras autour, évidemment, mais c'est une petite équipe, il faut bien s'en rappeler. Le titre est pourtant incroyablement beau. Franchement, c'est ultra bien codé, quelle que soit la plateforme. Le portage, d'ailleurs, est très, très réussi sur Switch. Il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai testé avec la version Steam. Évitez, pour l'instant, je ne sais pas où ils en sont sur la version GOG, mais la version GOG n'avait pas le multi. Donc, malheureusement, c'est pas la version achetée actuellement. Hein. Désolé, j'adore ce shop normalement, mais là, c'est mort. Comme pour notre ami Dragon's Wonderboy, pardon, les animations sont incroyables. Tu vois, ça transpire l'amour. C'est vraiment mes chiadés du pixel. C'est incroyable. Donc, tu lances le truc, c'est vraiment nickel. Sur le gameplay, bon, c'est un beat'em up. Hein, donc, globalement, pas de surprise sur la globalité. En revanche, ça a été fait par un game designer qui kiffe le jeu de baston. Donc, du coup, on se retrouve avec 5 personnages, dont les persos d'origine qui reviennent, plus des nouveaux. Il y a un petit scénario dont je vous épargne la portée philosophique, n'est-ce pas? Bref, on se retrouve avec Axel, Blaze, Adam, Sherry et Floyd. Plus peut-être, enfin, il y a des trucs à débloquer, je vous laisse la surprise. Bref, il y a une douzaine de personnages au total, je crois, avec surtout beaucoup de variantes, en fait, des mêmes persos. Hein, donc, vous attendez pas à avoir 12 persos différents, soyons clairs. Du coup, le game designer donc est fan de jeux de baston. Et pourquoi c'est important ? Parce que du coup, on se retrouve avec une gestion des combats complètement différente en fonction des persos qu'on a, qui vont avoir des possibilités assez variées. Alors après, c'est pas non plus un vrai jeu de baston, on est bien d'accord, on est quand même sur du beat'em up. Donc du coup, ça veut dire que certains persos vont avoir une attaque au sol. Enfin, il y en a une en tout cas qui a une attaque qui permet de taper un ennemi au sol pour le finir vite fait, ce qui n'est pas le cas des autres. Il y a des esquives qui fonctionnent avec certains persos, mais pas avec d'autres. Il y a une vitesse qui change d'un perso à l'autre. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, et surtout, il y a une gestion des coups spéciaux qui est rigolote, parce que bon, t'as des coups, des méga coups spéciaux qui vont dépendre d'un truc qui s'appelle les étoiles. Si tu récupères des étoiles, tu peux déclencher ce truc-là, autant le garder pour les vrais moments de panique. En revanche, il y a des coups spéciaux que tu peux faire tout le temps, sauf que ça bouffe ta barre de vie. Donc évidemment, t'as pas trop envie d'en abuser, mais ça bouffe ta barre de vie, sauf que tu peux, en tapant les ennemis, récupérer cette vie que tu viens de perdre, si tu times le truc correctement.
D'accord.
Donc en fait, t'as une gestion de ce qu'on appelle en jeu de baston le risque-récompense, qui est vraiment au top et qui est ultra intéressante. Donc je suis vraiment conquis, et pourtant, donc je ne suis, je le dis à la fin pour, tu vois, c'était la surprise, c'est pas un style de jeu que j'aime, en fait.
D'accord.
Je me fais souvent chier dans les beat'em up. C'est pas un truc, tu vois, c'est pas mon style, c'est pas mon go-to, tu vois.
Ouais, je comprends ça, ouais. C'est très button mash, et donc au bout d'un moment, t'as un peu mal au doigt et tu t'emmerdes.
Et puis bon, globalement, tu retrouves souvent les mêmes ennemis qui vont avoir des patterns relativement semblables, etc., etc. Donc il faut aimer les jeux de scoring, il faut aimer les jeux de ce style. Et si on peut lui faire des proche, en dehors de votre amour ou pas de ce genre, s'il y en a deux que moi je retiens vraiment, c'est que les niveaux sont très linéaires, c'est très classique. Vous n'aurez pas de passage secret, il n'y a pas d'embranchement, il n'y a pas de fin spécifique en fonction des persos, de votre score, etc. C'est toujours la même chose. Vous avez fini le jeu, tant pis. Enfin, tant pis. Vous avez fini le jeu, tant mieux, c'est bien. Et puis, l'autre truc qui, moi, m'a vraiment agacé, et ça, j'espère que ça sera patché, c'est qu'en fait, la zone d'action quand on veut ramasser un objet au sol est très petite. Et c'est extrêmement chiant très rapidement, surtout quand on a un objet dans la main, parce que du coup, si vous avez une arme dans la main, vous allez souvent vous retrouver à lancer le truc alors vous vouliez pas, juste pouvoir ramasser un sac de fric par terre. Oui, car il y a l'argent est par terre dans cette vie-là, dans ce monde alternatif. Quelle magnifique vie. Mais du coup, ça, c'est vraiment le truc qui m'a un peu crispé et c'est un peu chiant. Et donc voilà. Par contre, je vous invite à aller voir mes scores. Je suis dans le top 5 mondial, je crois. Et je suis assez fier de moi, il faut le dire. Et j'ai pas du tout cheaté pour aller voir la fin du jeu avec tous les persos rapidement. Voilà. C'est online, donc maintenant il y a mon nom là-haut. Je n'y peux rien. Pardon.
Et on termine cette section gaming avec des petites news en vrac.
Ouais, parce que je me suis dit qu'il y avait des trucs dont on n'aurait jamais le temps de parler, parce que les semaines ne font que 7 jours, même en confinement, les gars. Il y a eu pas mal d'annonces ou de sorties, j'ai pas du tout eu le temps d'y jouer, mais comme j'ai dit sur la conduite, les copains kiffent, donc je vous ai linké tout ça. Il y a Gears Tactics qui est sorti déjà, donc c'est un truc qu'on n'attendait pas. Hein. Moi, je suis toujours surpris que ça existe, ce jeu. C'est donc un tactical qui sort dans l'univers de Gears of War. C'est magnifique. C'est vraiment super beau et apparemment c'est en plus intéressant à jouer, incroyable, plus intéressant que le dernier Gears, c'est pas très difficile. Tout le monde en dit du bien, il a eu un fantastique 7, ce qui est vraiment pas mal déjà, tu vois, sur Gamekult, qui a fait un test complet avec des labellisations de qualité, dont notre ami Gotose, again, c'est normal, celui qui a fait le test. Donc, franchement, moi, je m'y attendais pas, allez-y. Alors, c'est pareil, hein, j'ai pas le temps en ce moment, donc celui-là, je ne le ferai pas. Vous pourrez me raconter comment c'est sur le forum, pas de problème. Il y a des news de Crucible, hein, qui, en fait, un truc qui était complètement passé sous mon radar, qui est en fait un shooter coopératif qui va sortir sur Steam et qui est fait par un des studios, enfin tu sais, Amazon a sorti son carnet de chèques pour faire des studios de jeux vidéo. Donc ça sort le 20 mai, et ça j'étais pas du tout au courant que ça devait débarquer aussitôt. C'est un free-to-play qui est développé par Relentless Studio, donc ils ont 3 studios, c'est un des 3, les petits gars de chez Amazon. Et pendant ce temps-là, il y a le MMO New World qui a été retardé jusqu'au mois d'août. Alors New World, c'est un MMO extrêmement comment dirais-je, je suis circonspect, tu vois, extrêmement bizarre sur l'univers qui a été choisi, puisqu'on est dans une époque un peu conquistador et compagnie, qui moi ne m'excite pas du tout, mais alors vraiment j'en ai rien à foutre, à chaque fois que je vois une vidéo du truc, au secours, donc j'attends de voir ce qu'ils ont trouvé comme petites astuces de gameplay, parce que le monde du MMO est un petit peu quand même moribond ces derniers temps.
Ouais, c'est vrai.
On attend vraiment des trucs intéressants, donc on verra bien ce que ça donne. Et ensuite je voulais annoncer la sortie sur iOS et Android officielle de Runeterra, le jeu de cartes de nos amis de Riot Entertainment, qui est dispo sur vos téléphones pour bien vous niquer les yeux. Parce que, alors même sur j'ai testé sur S10 Plus, sur iPhone 8 Plus aussi, donc pas les plus petits écrans du marché, c'est vraiment pas ultra idéal. Alors je sais que mes yeux ne rajeunissent pas, hein, mais quand même, même avec des lunettes, le texte des cartes, c'est quand même pas ultra agréable à lire. En revanche, ça fonctionne bien. Donc quand vous connaissez les cartes et que vous n'avez pas besoin d'aller regarder en détail à chaque fois un sort, un truc, un bidule, c'est tout à fait utilisable. En revanche, sur iPad, c'est le luxe. Et ça devient un excellent jeu. Par contre, si vous avez une bécane qui tient la route, n'hésitez pas à activer les graphiques en ultra. Si votre téléphone n'est pas une vieille boue, ça devrait passer assez facilement. Parce que sinon, on a un espèce d'effet de flou qui n'est pas ultra agréable sur les graphismes du jeu. Et je ne suis pas ultra fan. Et puis, je termine vite fait avec Apex Legends qui continue d'évoluer, qui annonce un nouveau personnage qui m'a fait beaucoup rire parce que ils ont voulu mettre du scénario, etc. dans Apex, et c'est louable, c'est plutôt bien fait les trois quarts du temps, ça donne des petites cinématiques sympas, etc. Mais là j'aimerais qu'on m'explique comment les persos du jeu ne vieillissent pas alors que elle vient de débarquer. En fait, il faut savoir que dans le dernier patch, et le dernier personnage est censé être un espèce de robot meurtrier, etc., qui a buté le père d'une petite fille. Et moi j'avais call le truc. la petite fille allait être un personnage du jeu.
Bah oui.
Parce qu'elle voulait se venger. Et donc, effectivement, c'est le cas. La problématique, c'est que là, elle a plus de 20 piges et tout, mais ils ont pas pris une ride, les autres. Hein. Non, parce que les autres, qui sont pas des robots, ils sont toujours dans le jeu, tu vois. Donc, ça me fait bien marrer. Son pouvoir a l'air d'être aussi autour de la téléportation. Donc, ça va commencer à faire beaucoup de persos avec des pouvoirs un peu cheatés, entre guillemets. Elle balance, en fait, un device. Elle peut se téléporter dessus. Toute ressemblance avec un personnage d'Overwatch est complètement fortuite, mais en même temps, vu comment ils se pompent les uns les autres, j'ai envie de te dire, démerdez-vous entre vous. Moi, si c'est rigolo à jouer, ça me va. Ça devrait être dispo en même temps que la nouvelle saison, le 12 mai, et a priori, si vous jouez au jeu, vous savez quel endroit merveilleux est la zone d'atterrissage de Skulltown, qui va être entièrement, revisité, a priori. Je sais que ça va en attrister certains qui avaient leurs petites habitudes dans le coin.
Allez, on passe du côté des apps avec Tixati pour aller récupérer les cassettes VHS de notre ami Bob.
Ah Bob, si tu nous écoutes, merci à toi pour tes services rendus nombreux. Tixati, c'est un client BitTorrent qui est absolument pas nouveau, mais ce qui me fait assez halluciner, c'est que Tixati, c'est un truc qui existe depuis plus avant 2009, je crois. Et j'en ai parlé donc cette semaine, car il y a une nouvelle version qui est sortie fin avril et ils sont en train de travailler sur d'autres features. Et ce client BitTorrent, en fait, est super méconnu alors qu'il est gratos. Il n'y a pas de pub et il est très safe. J'ai été à vérifier sur le net de tous les côtés. Tout le monde en dit du bien. Donc, j'étais assez étonné qu'il soit aussi peu connu autant d'années après, ce qui est assez hallucinant. J'ai fait une petite news donc cette semaine sur Geekzone. Alors, il y a un truc rigolo, outre le fait que ça gère très bien les torrents sous toutes ses formes, avec toutes les options que vous pouvez vouloir sur ce genre de soft. Il y a un truc assez rigolo, c'est qu'ils ont des chatrooms. Et oui, comme en 1970. Non, enfin, quand même pas, mais bon, bref, c'est très très vieux, je veux dire, plus personne utilise ce genre de truc quasiment, c'est assez rigolo. Et ils ont aussi des fonctionnalités de stream et de forum, donc en fait les gens peuvent se laisser des messages un peu comme à l'époque, je crois que c'était Soulseek, un truc dans le genre.
Soulseek le fait toujours, en fait t'as toujours des chatrooms, voilà. Aussi, c'est complètement anachronique, mais bon.
C'est ça, donc ça me fait trop rire, mais il y a un petit côté nostalgique à aller chercher des trucs rigolos là-dedans. Donc ça gère tout ça, et j'avais laissé en fond un moment un mec qui diffusait de manière évidemment totalement légale l'intégralité de Ricky et Morty. Moi, je pense que tout va bien se passer. Le BitTorrent est toujours aussi puissant. Donc voilà, vous pouvez les récupérer ça. Et puis, évidemment, c'est pas la seule alternative. Hein. C'est juste que si vous cherchez quelque chose de pratique sous Windows, c'est une option intéressante à connaître. Surtout que la version portable fonctionne très, très bien.
Et puis, on reste dans les apps avec, j'ai vu passer ça cette semaine, l'ancien créateur de Wunderlist qui se relance dans le business et qui lance Superlist.
Ça me fait rire. Bon, il a fait d'autres trucs entre-temps, hein, vite fait. Mais bon, ça me fait marrer parce qu'en fait, comme tout le monde sait, puisque j'ai largement écrit sur le sujet sur Geekzone, Wunderlist a été racheté par Microsoft. Microsoft a fait de la merde pendant des années, a fini par sortir un truc potable qui s'appelle Microsoft To Do, parce que voilà, on va pas changer une équipe qui gagne sur les noms faciles. Et du coup, quand c'était un petit peu la mouise, l'ancien fondateur qui avait vendu et donc touché plein de pognon de chez Microsoft a dit, mais si t'en fais rien de mon truc, ou si tu vas faire de la merde à ce point-là, laisse-moi utiliser le nom Wunderlist et puis moi je vais refaire un produit. Ce à quoi, bizarrement, Microsoft a dit, déconne pas, te fous pas complètement de notre gueule non plus. Donc, ils n'ont pas rendu le nom Wunderlist, mais le mec a décidé finalement de se relancer dans le business avec Superlist. Il a sorti un autre projet ou qui va sortir là, mais donc Superlist, c'est son prochain projet et qui va être un truc bien plus. J'aime bien parce qu'on n'en sait rien en fait, hein, mais il nous promet bien plus qu'un gestionnaire de liste. C'est évidemment actuellement le gros truc en SaaS, tous les gestionnaires de projets qui sortent et qui évoluent. Je vous ai parlé de Notion, de ClickUp, etc. Et le marché est en pleine explosion. Il y a des gens sur Monday, il y a 1 milliard de produits sur le marché. Ça devient complètement n'importe quoi. Et puis en plus, il faut se former à chaque fois, donc c'est pas non plus évident de switcher de l'un à l'autre. Bref, mais cette histoire de Superlist me fait marrer puisque lui, il avait déjà développé à l'époque de Wunderlist un truc qui s'appelait Wunderkind, en fait, une espèce de bureau virtuel pour travailler en collaboration, mais bah, c'était 10 ans trop tôt, finalement. Donc, je suis intéressé de voir ce qu'ils vont faire, parce que moi, j'aimais bien le concept du truc à l'époque, même si c'était pas ultra fiable et un peu lent, les technos nets n'étant pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais voilà, on va suivre ça de près, et puis je me suis inscrit aussi à un nouveau truc aussi, dont je vous parlerai peut-être si j'arrive à rentrer sur la bêta relativement vite, mais en tout cas, c'est un secteur en ébullition, parce qu'apparemment, vous perdez tous les putains de post-it que vous collez sur votre frigo.
Allez, on passe du côté de la culture. Je voulais vous parler d'une nouvelle série sur Amazon Prime qui s'appelle Upload. Tu as regardé ou pas?
Ouais, c'est une série de Bob VHS.
C'est une série de Bob VHS. Bah, c'est sur Amazon Prime, donc il y a des chances que ce soit
disponible.
Non,
je veux dire, c'est une série à propos de Bob VHS.
D'accord, c'est comment il upload ses cassettes VHS, voilà. Oui, c'est ça.
C'est la vie de Bob VHS, pas mal.
Non, en fait, c'est une série donc qu'on pourrait qualifier quoi, de satirique slash anticipation qui a été créée par Greg Daniels. Alors, Greg Daniels, c'est un monsieur qui a commencé chez les Simpsons, qui a fait The Office, qui a fait Parks and Recreation, donc c'est pas son premier rodéo comme on dit. Et donc la série est disponible depuis le 1er mai 2020 sur Amazon Prime en intégralité, 10 épisodes. Le pitch en gros, ça se déroule dans un futur proche où on peut désormais transférer sa conscience dans un univers virtuel juste avant de mourir.
Enfin,
comme ça tu as une sorte d'immortalité, tu vis dans un univers virtuel, réalité virtuelle une fois que tu es mort.
Avec Elon Musk pour toujours.
Non, heureusement. On y suit Nathan Brown qui est incarné par Robbie Amell, qui est un codeur qui vient récemment donc d'arriver dans un de ces mondes virtuels, en l'occurrence le plus populaire qui s'appelle Lakeview, et il est en contact là-bas avec son Angel. Alors l'Angel en fait c'est une espèce de représentante service client en fait qui vérifie que tout se passe bien, qui vient un peu aux nouvelles tous les jours, qui s'appelle donc Nora Anthony dans la série et qui va l'assister donc dans sa nouvelle vie. Alors je vous spoil rien, mais au-delà de la satire, parce que c'est évidemment plus une série satirique à la base, il y a aussi une vraie intrigue puisqu'on va rapidement se rendre compte que ce bon Nathan Brown a des lacunes dans ses souvenirs, ce qui n'est a priori pas normal, et que finalement il serait peut-être pas mort par accident. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est assez aigre-doux, c'est pas toujours ultra subtil, on reconnaît bien la patte de Greg Daniels, pour ceux qui ont suivi The Office et Parks and Recreation, c'est parfois des grosses vannes, mais ça marche assez bien, surtout dans le flow de la série, et comme la série navigue entre ce côté satirique et puis ce côté anticipation un peu sérieux, ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, moi j'ai bien aimé, j'ai dévoré les 10 épisodes en 2 soirées. Donc voilà, Upload sur Amazon Prime. On vérifiera si c'est dispo en France, mais je pense que c'est le cas. Et puis sinon, Bob VHS, c'est Tixati, comme on en parlait tout à l'heure.
Démerdez-vous.
Voilà. On passe à un documentaire qui s'appelle Cracked Up. C'est disponible sur Netflix. Donc ça, c'est disponible partout sans passer par Bob VHS. C'est un documentaire de Michel Esrick sur un monsieur que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Darrell Ammond. Et Darrell Ammond, en fait, c'est un comédien imitateur, ancien membre du SNL. Il a été au SNL de 95 à 2009. De mémoire, je crois que c'est celui qui est resté le plus longtemps. Et il est revenu, en fait, récemment depuis 2014, puisque c'est lui qui fait désormais la voix off. Tu sais, ils ont un annonceur officiel, il est décédé il y a quelques années, c'est lui qui est venu le remplacer. Et c'est sans doute un des membres du SNL que je préfère. C'est vraiment un mec super drôle. Il a une capacité d'imitation qui est assez folle. Il peut imiter plus d'une centaine de personnages. Voilà, il a une espèce, je sais pas comment on dit en français, le delivery. Enfin, sa manière de raconter ses vannes et de se faire ses vannes est toujours très pince sans rire et ça fonctionne très très bien sur moi. Donc c'est un documentaire d'une heure et demie qui s'intéresse un peu à son parcours et où on y apprend notamment qu'il a vécu un gros trauma durant son enfance et donc on parle beaucoup de ce traumatisme et des dizaines d'années qu'il a passé par la suite de psy en psy. Tous les psys lui ont diagnostiqué une maladie différente, on lui a diagnostiqué de la schizophrénie, enfin on lui a diagnostiqué un peu tout et n'importe quoi pour finalement se rendre compte qu'en fait non, il avait été maltraité par sa maman quand il était gamin. Et donc voilà, il y a toute une introspection du personnage qui est vraiment
joyeux,
super intéressant. Non, alors c'est pas forcément joyeux, mais c'est quand même malgré tout touchant et puis c'est surtout très très positif et très très optimiste. D'accord. On va dire. Et puis comme moi j'aime bien le monsieur, voilà, je voulais en parler. C'est vraiment un gars, si vous connaissez pas Darrell Ammond, allez choper ses imitations de Bill Clinton au SNL, elles sont assez fantastiques. Il est vraiment très très drôle et voilà, c'est toujours rigolo, c'est toujours surprenant de voir que des comiques comme ça qui ont un talent fou sont souvent aussi des gens qui ont été pas mal meurtris dans leur enfance.
C'est hyper classique, on en a plein des comme ça.
C'est clair. Donc voilà, c'était la petite reco documentaire sur Darrell Ammond. Ça s'appelle Cracked Up et c'est sur Netflix. Et puis je voulais signaler l'arrivée aussi de la saison 2 d'Afterlife sur Netflix.
Yes.
Malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de la voir. Je sais pas si t'as eu l'occasion de regarder
pas
ou pas.
Pas du tout. J'ai juste vu le, mais j'ai rien regardé depuis. Je crois que j'ai pas maté un épisode de quoi que ce soit en 3 semaines. Là.
Ok.
Donc je suis vraiment à la bourre. Mais j'avais adoré la saison 1, donc je savais même pas qu'il y avait une d'autre prévue. Donc.
Voilà. Bah voilà, on en avait parlé à l'époque de la saison 1, on avait bien aimé. Et donc bah voilà, la saison 2 est disponible. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. Si ça vaut vraiment le coup, il y a des chances. On va parler du côté de la tech avec des news du côté du MacBook Pro et de son fameux clavier.
Ah là là, oui, Apple sort des produits en confinement sans d'ailleurs faire beaucoup de ramdam. Mais donc là, ils ont mis à jour leur 13 pouces, donc le MacBook Pro 13 pouces. Alors tout le monde attendait un 14 pouces, raté. Ça ne veut pas dire qu'il sortira jamais, mais a priori, ce n'est pas prévu. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a 2 trucs à noter et surtout un qui, moi, me fait plaisir. Attention. ils ont enfin buté leur putain de clavier de merde.
Ça va voilà. faire plaisir à Taika Waititi aussi, ça.
Non, mais c'est un, oui, on est plein à avoir dit, mais j'ai pas compris. Ça fait pendant 3 ans, les mecs ont essayé de nous expliquer à quel point leur clavier était awesome et génial et tout. Et c'était de la merde. Et dès le premier, je dis, mais c'était pas possible. Et attention, je ne parle pas du toucher du clavier. Je ne parle pas de la façon dont on ressent qui, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était de la merde en barre. Je suis désolé, je suis très vulgaire, mais il faut que ça sorte. J'ai toujours détesté ce clavier. Il y a des gens qui l'aiment bien, bah tant mieux. Et je le trouve bruyant, je le trouve pas agréable. Il n'y avait pas de course du tout quand tu appuies sur les touches. C'était une horreur. Et donc, le problème, c'est que ce truc tombait en panne, mais une horreur. Donc, moi, je m'occupe de l'informatique pour aider des petites boîtes de potes. Et je crois que sur tous ceux que j'ai fait acheter dans l'intervalle, il n'y en a pas un qui n'est pas tombé en panne à cause de son putain de clavier. On est quand même sur un sacré track record. Y en a d'ailleurs qui sont toujours en train de se demander pourquoi le pomme V marche pas, parce que la touche pomme est morte, en fait, mec.
Sur une machine à prix-là, ça la fout mauvaise, un peu, quand même.
Je vois pas de quoi tu parles. Si, imagine, t'as la portière de ta BM à Watmi qui te reste dans la main, c'est pas possible, quoi. Donc, ça, c'est un truc qui m'a super énervé, surtout avec la com Apple. Alors, ils ont jamais été connus pour faire des mea culpa publics, les mecs, hein. Mais là, vraiment, il y a un moment où faut assumer, tu vois. Même les mecs, quand ils ont eu des bugs sur iOS, ils assument, etc. Ça, ils arrivent à le faire. Là, ça a été très, très long. Et donc, d'un coup, c'est genre, en fait, on a un nouveau clavier avec l'ancien système. Il marche super bien. Il est awesome. Et bah oui, il était temps de changer, les mecs. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle, parce que voilà, sur ce modèle, on a enfin de retour un clavier potable. On le savait, puisque c'est déjà ce clavier-là qui est sur le modèle 16 pouces. Donc, sur les MacBook Pro, ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus cette grosse bouse de clavier. On peut respirer et continuer à recommander des bécanes qui ne vont pas te lâcher alors que tu viens de claquer, effectivement, 2 ou 3 000 balles dans la grosse config, tu vois.
Bah oui.
Au secours. Donc, et puis, le deuxième point intéressant, c'est que Intel, en fait, sait graver des trucs en 10 nanomètres, mais il n'y a que Apple qui peut les acheter actuellement. Donc, la nouvelle génération, la 10e génération dont j'avais parlé la semaine dernière, ou 15 jours, je ne sais plus, de processeurs Intel pour portable est disponible dans cette machine-là, et effectivement, ils sont en 10 nanomètres, et donc c'est mieux pour le dégagement de chaleur, etc. Mais pour l'instant, il n'y a que Apple qui en dispose, ça ne sera pas le cas très très longtemps, hein, mais c'est généralement pas mal, même pour Intel, hein. C'est pas juste pour vous la faire à l'envers, hein, en parlant toujours très crûment, c'est juste que c'est aussi pratique pour Intel de pouvoir tester et commencer sa production, ramp-up comme on dit, pour un constructeur qui déjà va pas négocier les prix et t'emmerder avec ça, mais surtout de toute façon, tu n'as pas les volumes au départ sur des productions de trucs nouveaux comme ça, surtout Intel qui est en galère pour faire autre chose que du 14 nanomètres. Donc du coup, pour eux, c'est assez pratique. Et en revanche, c'est un gain assez intéressant pour Apple, même si évidemment, nous avons surtout hâte de tester les versions ARM, parce que là, c'est la rumeur. Il va y avoir des Mac avec de l'ARM dedans. Alors peut-être, pour l'instant, on n'en sait rien. Et on sait toujours pas comment ça va être géré niveau software. Mais j'ai déjà des amis programmeurs qui sont tout crispés sur cette histoire. Donc on en parlera longuement plus tard quand ça sera d'actualité.
Allez, on va terminer avec un truc que j'ai vu passer cette semaine aussi. J'ai pas compris en fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec les lignes fibres ? C'est à Paris, c'est ça, ou dans la région parisienne ?
Et ouais. En fait, il y a plein de gens qui se sont retrouvés avec leur connexion 3G instable en backup en plein confinement parce qu'il y a des petits rigolos qu'on trouvait très très intelligents d'aller sectionner à la disqueuse plein de centres serveurs de fibres en fait, un peu partout en France. Il y en a pas eu qu'un, il y en a eu plusieurs. Ça a été très très chiant puisqu'il faut ressouder toutes les putains de fibres une à une. Une fibre, ça fait 9 microns, je crois. Enfin, c'est autant vous dire qu'il y a une machine spécifique pour faire ça avec un microscope pour aligner les bouts et pouvoir ressouder le tout. Donc, ce n'est pas pratique du tout. Je vous ai linké un papier. Alors, pareil, je suis désolé, c'est sur un site payant, mais c'est le plus complet qui parle de ça. Et c'est nos collègues de chez Next Impact qui ont fait un très bon boulot sur l'histoire. Apparemment, il y a de plus en plus de vandalisme autour de ça. Alors, je sais pas, c'est les terroristes de la Poste qui veulent que vous continuez à envoyer des lettres avec des timbres. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des revendications derrière? Je les attends, mais bon, terrorisme du numérique. En attendant, ça fait vraiment chier. Ça empêche les gens de bosser. C'est juste incroyablement con. Donc, je ne sais pas ce qui se cache derrière et j'espère que les mecs vont se faire choper parce que ça commence à prendre de l'ampleur et c'est complètement stupide et surtout qu'il est pratiquement impossible de sécuriser tous les sites où sont regroupées comme ça les connexions fibrées. Ça serait injouable. Il faut que les techniciens puissent y accéder facilement, etc., etc. Donc bon, c'est un petit peu incroyable. Je voulais en parler parce que moi, je ne comprends pas. Donc si vous avez des informations,
aussi, ouais.
Voilà, je vous attends sur le forum si vous avez des théories. Et si elles sont drôles, vous avez le droit de venir aussi. Hein, parce que là, vraiment, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et ça aussi expliquait pourquoi j'avais plein de potes qui n'étaient plus du tout sur le net pendant deux jours et qui sont revenus aujourd'hui genre « Ouais, ça marche !» Et voilà, en plein confinement en plus. Enfin, je veux dire, quel type de fils de rien fait ça, quoi. Je ne comprends pas. C'est assez hallucinant.
Et c'est la fin de ce 131e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, eh ben, on va aller profiter de cette connexion internet que nous, on a toujours.
Ouais, bah, dis pas fort. Le dis pas trop fort. Il y a peut-être des mecs avec des disqueuses qui vont te chercher après.
On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.